France Inter, le 7-9.
Vous nous parlez d'une détresse, Jean-Philippe.
Et d'une image qui vous cogne, celle de gamins frigorifiés, recroquevillés dans des coffres de voitures de police. On n'avait rien d'autre pour les réchauffer, souffle un agent qui fait ce qu'il peut. Ça se passe près de chez vous, à Boulogne-sur-Mer. Et c'est la Voix du Nord qui vous raconte ce matin le débarquement chaotique de 400 migrants. La cote d'alerte en 4 ans de sauvetage, c'est la journée la plus difficile, totalement ingérable, vous dit Gérard Baron. Il sait de quoi il parle, c'est le président de la SNSM du coin, le sauvetage en mer. Une mer de migrants, comme disent parfois les locaux, quand la météo se fait plus calme, comme ces derniers jours, et quand des embarcations de plus en plus fragiles en profitent pour tenter la traversée. Des naufragés qui repartent à pied, s'éparpillent dans la nature. Plus de stock de vêtements, presque plus de couverture de survie. Bref, c'est le bordel, résument les bénévoles. Et tiens, voici un de bénévoles qui pousse la porte de l'église Saint-Pierre à Calais. Il s'appelle Gaston, il est psychologue et l'on voit bien qu'il a un peu de mal à retenir ses larmes. Oui, Gaston est inquiet, très inquiet. Il vient prendre des nouvelles de 3 de ses amis, toujours en grève de la faim. C'est le journal La Croix qui continue de suivre régulièrement cette action. Et cela fera bientôt un mois, le 11 novembre, un mois que Ludovic Holbin, Anaïs Vogel et le père Philippe de Mester ont cessé de s'alimenter. Ils se disent hyper fatigués, mais ils ne lâchent pas, toujours à réclamer l'arrêt des opérations de démantèlement des camps de migrants. Oui, mais n'allez pas trop loin, demande Gaston au père Demester. Devenu à 72 ans symbole d'une obstination, le jésuite qui essaie de rassurer tout le monde, les mains jointes, barbe blanche, capuche noire. « Je ne veux pas mourir dans cette église », dit-il, « et j'ai bien l'intention d'en sortir sur mes deux pattes ».
Jean-Philippe, vous nous parlez maintenant d'une machine.
Et vous savez, celle qui fait bip-bip à la sortie du supermarché, les caisses automatiques, dont on se dit souvent qu'elles sont bien pratiques pour gagner du temps. Sauf que Libération se demande si cette société sans contact ne cacherait pas une nouvelle fabrique de l'exclusion. À force de remplacer caissières et caissiers, les mêmes qu'on remerciait chaleureusement pendant le confinement et qui désormais ont peur pour la suite. On perd de l'humain, on perd de la relation personnelle, constate un syndicaliste, quand les guichets disparaissent, quand tout se dématérialise, dans les services publics également. Plus d'explications, plus de pédagogie pour celles et ceux qui se perdent dans les méandres de l'administration, qui ne sont pas à l'aise avec l'ordinateur, qui n'osent plus demander. Après l'illettrisme, voici donc l'électronisme. Il affecte 9 millions de Français, nous rappelle Libé. Sans surprise, les non-connectés sont moins jeunes, moins diplômés, plus fragiles. Mais bon, vous me direz, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Des métiers disparaissent, d'autres les remplacent. Tiens, prenez les stations-service par exemple. Il y a quelque temps, j'expliquais à ma progéniture ébahie qu'à une époque, il y avait des gens qui venaient servir à la pompe et même qu'on appelait ça les pompistes. Bon, encore que, on peut se demander si l'on aura encore longtemps besoin d'essence. C'est la une des Échos qui vous annonce que depuis le début de l'année, une voiture neuve vendue sur 5 est une voiture électrique. 100% hybride ou hybride rechargeable, une sur 5. Ça représente un peu plus d'1,5 million de véhicules. Le modèle le plus prisé est bien sûr une Tesla. Mais bon, si jamais vous continuez d'aimer les bons gros vieux moteurs qui font vroom vroom, ne bougez pas les amis, j'ai aussi ce qu'il vous faut. Une Lamborghini, quelque peu ostentatoire, certes d'un jaune que je qualifierais de poussin. Bah oui, un tant qu'à faire, autant y aller à fond. Cette Lamborghini vous attend dans les pages du Midi Libre. Star d'une vente aux enchères particulière, elle a lieu aujourd'hui à Bercy, au ministère de l'économie, consacrée à des biens mal acquis quand on attaque les malfrats au portefeuille.
Et puis Jean-Philippe, vous vous posez aussi une question.
Existentielle, Nicolas, peut-on vraiment se refaire la bise? Bon, en vrai, c'est pas moi qui m'interroge, c'est le Parisien aujourd'hui en France. Mais on a tous vécu, hein, au moins une fois, cette scène embarrassante, un pas en avant, en arrière, on s'embrasse pas, on check. Globalement, je note dans le journal que pour le bureau, en tout cas, tout le monde a l'air d'accord, on arrête la bise. Et j'apprends d'ailleurs que c'est via l'entreprise, curieusement, que la bise s'était généralisée dans les années 90. C'est ce que dit une sociologue à une époque où le management se voulait horizontal, faire cause commune autour des mêmes valeurs. La bise entre collègues, façon de faire fraternité. Sauf qu'aujourd'hui, le « tous copains au boulot », les gens n'y croient plus guère. Oui, décidément, les temps changent. Alors raison de plus pour garder quelques repères indiscutables, insubmersibles, qui font du bien. Mon repère à moi s'appelle Paul McCartney, bientôt 80 ans. Et le voici en photo dans le Figaro à l'occasion de la sortie d'un livre monumental, en 2 volumes, plus de 900 pages, une autobiographie à travers 154 chansons que Sir Paul McCartney vous raconte. Et l'Obs se publie quelques extraits cette semaine. Bah tiens, vous allez essayer de reconnaître ce titre, c'est Paul qui vous parle. Dans mon enfance, j'ai rencontré plusieurs vieilles dames. Pour un shilling, on faisait des petits boulots, on tondait la pelouse. Je m'entendais bien avec l'une de ces vieilles dames. Je passais souvent la voir. J'avais découvert qu'elle vivait seule. Alors je faisais toujours un détour pour venir bavarder, ce qui est assez dingue de la part d'un gamin de Liverpool. On s'asseyait dans la cuisine, j'écoutais ses histoires, elles ont nourri mon âme. Et bien, quelques années plus tard, Paul McCartney en fera une chanson. Il donnera un nom à cette vieille dame, Eleanor Rigby.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Merci Jean-Philippe pour cette revue de presse.